Europe Soir, le 18-20. Thierry Dagiral.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ces deux heures d'infos, de débat, de point de vue. C'est votre 18-20 et ça reste ouvert tout l'été. Dans une poignée de secondes, le journal à la une ce soir, Clarisse Agbenenou, une Française en or. C'est la belle nouvelle de ce mardi. Dans 20 minutes, on va parler passe sanitaire, liberté individuelle, vaccination, acte citoyen, mais pas que. Avec le philosophe Michel Onfray, il vient de publier L'art d'être français aux éditions Bouquin. 18h30, le débat des grandes voix. On va analyser, décortiquer les chiffres du chômage, une baisse, certes, mais en trompe-l'œil ou pas. Et puis on va regarder aussi les conséquences économiques de ce pass sanitaire en vigueur maintenant depuis presque une semaine. Vous réagissez bien sûr au 39-21. Je vous attends. Et puis à 19h15, votre club des idées. Comment vont les soignants? Comment va l'hôpital? Il y a eu la pandémie, nos applaudissements, le Ségur de la santé. Est-ce que les choses ont bougé? 39-21, vous êtes concerné, vous êtes médecin, vous êtes soignant. Vous prenez la parole bien sûr, 39-21. Mais avant cela, toute info de ce mardi 27 juillet avec le journal présenté par Sophie Tissot. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
Merci d'écouter Europe 1. Il est 18h.
J'ai cette médaille enfin. J'y crois pas. J'ai même pas les mots. J'ai pas les mots.
Elle est aujourd'hui une femme en or, la Française Clarisse Agbenenou a été sacrée championne olympique de judo dans la catégorie des moins de 63 kilos.
La pression hospitalière qui se fait de plus en plus ressentir, le gouvernement continue la course contre le Covid-19 et met un nouveau coup de pression sur la vaccination.
Une embellie sur le front de l'emploi, deuxième trimestre de baisse significative du chômage, ce sont les demandeurs d'emploi qui n'avaient aucune activité qui ont le plus retrouvé un travail.
Nice est désormais inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. La célèbre Cité des Anges est désormais une référence mondiale du tourisme. Pour en parler, la directrice du Théâtre National de Nice, Muriel Mayette-Holtz, sera notre invitée.
La Bourse de Paris, le CAC 40 termine ce soir dans le rouge, moins 0,71% à 6531 points.
La tendance météo, bonsoir Marlène Duré.
Bonsoir Thierry, encore des averses dans le nord du pays demain, moins nombreuses qu'aujourd'hui a priori. Et puis d'autres averses orageuses vont remonter d'Espagne ce soir et cette nuit. Elles circuleront du sud-ouest à l'Auvergne avant de s'évacuer par les Alpes.
A tout à l'heure Marlène.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est la belle nouvelle du jour. Deux médailles de plus pour la France aujourd'hui aux Jeux Olympiques de Tokyo.
Oui, du bronze en taekwondo, mais surtout de l'or en judo. Clarisse Agbenenou est montée sur la plus haute marche du podium dans la catégorie des moins de 63 kilos. Une victoire aux airs de revanche, Simon Rubin.
Et oui, puisqu'en finale, Agbenenou a battu la Slovène Tina Terchteniak, celle-là même qu'il avait battue en finale, qu'il avait privée de l'or à Rio en 2016. Et Clarisse Agbenenou nous l'avait annoncé hein, depuis des mois, des années même. Elle venait à Tokyo pour l'or et pour rien d'autre. Et c'est sans doute en cela que sa victoire est d'autant plus impressionnante. Pendant 5 ans, elle s'est préparée, ne pensant qu'à une chose, chaque jour à l'entraînement. On comprend mieux l'émotion folle qui a débordé à peine le combat fini. Clarisse Agbenenou qui enlace son adversaire, qui pleure dans ses bras, qui la porte en triomphe. Et il y a quelques instants, la nouvelle médaillée d'or a publié un message à ses supporters. Elle était encore très émue.
Vous êtes prêts ? Elle est là! Je suis tellement heureuse, tellement fière et je voudrais vraiment vous remercier pour tous vos encouragements. Je suis tellement heureuse et je fais des bisous parce que je l'aime déjà. Je suis tellement fière, j'espère que ça a été pour vous, que vos cœurs ont tenu, que vos larmes n'ont pas trop coulé. Mais je tiens vraiment à vous remercier et j'ai hâte de rentrer à Paris pour fêter ça avec vous.
Clarisse Agbenenou qui fait des bisous à sa médaille d'or, la deuxième médaille d'or donc pour la France. À cela, il faut ajouter le bronze d'Althea Lorrain, médaillée de bronze en taekwondo pour ses premiers Jeux à seulement 19 ans. Alors Althea Lorrain, elle s'est mise au taekwondo par erreur. À l'âge de 7 ans, en fait, elle s'était mise dans la file d'attente pour s'inscrire en sport, en l'occurrence au karaté. Mais eh ben, elle s'est trompée de file et elle s'est retrouvée comme ça à l'âge de 7 ans à faire du taekwondo. Comme quoi, ça tient à pas grand-chose. Une médaille olympique. Ce soir, la France est 9e au classement avec 7 médailles, dont 2 en or. Un bilan qui est assez similaire à celui de Rio 2016 au même stade de la compétition.
Simon Rubin du service des sports d'Europe 1.
Le gouvernement met un nouveau coup de pression pour que les Français soient vaccinés au plus vite. La France devrait franchir dans les prochaines heures, 50% de sa population totalement vaccinée.
500 000 de rendez-vous sont disponibles dans toute la France pour se faire vacciner. C'est ce qu'a martelé ce matin Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui était sur le terrain aujourd'hui à l'hôpital Necker à Paris. Alors que nous sommes dans la 4e vague, il a rappelé que la pression hospitalière restait forte.
Ce que nous pouvons constater en France, c'est malgré tout une poursuite de l'épidémie avec une augmentation du nombre de cas d'une semaine sur l'autre. L'augmentation, vous l'avez peut-être vu, semble avoir ralenti, mais enfin c'est depuis 48 heures. Ça ne suffit absolument pas pour pouvoir dire que l'épidémie ou le pic serait derrière nous, loin s'en faut. Donc nous avons besoin au jour le jour de regarder les données, le nombre de contaminations, le nombre de tests qui sont effectués. À ce stade, nous sommes encore dans une épidémie qui est croissante avec une augmentation du nombre de cas. De la même manière, nous observons depuis quelques jours une augmentation du nombre d'hospitalisations, je le disais, moins importante que lors des vagues précédentes, mais qui peut quand même devenir importante si nous n'y prenons pas garde. Donc encore un message de grande prudence, de grande vigilance, n'allons certainement pas considérer les choses pour ce qu'elles ne sont pas, en tout cas pas encore. Si les choses devaient évoluer, nous le dirions évidemment, et de toute façon ça se verrait puisque nous communiquons en transparence. Le seul message, c'est pour ne pas avoir à se poser ce type de questions, on se vaccine massivement.
Olivier Véran, le ministre de la Santé, le nombre de malades hospitalisés hier était repassé au-dessus de la barre des 7000 et près de 1000 personnes se trouvaient en soins critiques.
Alors avec la crise sanitaire, beaucoup de difficultés économiques, malgré tout cette bonne nouvelle sur le front de l'emploi, le nombre de demandeurs d'emploi poursuit sa baisse au deuxième trimestre.
Oui, ce sont les chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas du tout travaillé, qui ont le plus profité de cette embellie, moins 1,3% les concernant, une baisse qui s'établit à 0,5% toutes catégories confondues, Emmanuel Dutheil.
On peut en effet parler de forte baisse et cette baisse est notable chez les plus jeunes. Si on ne regarde que le mois de juin, pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, les demandeurs d'emploi jeunes sont plus proches du niveau de chômage d'avant-crise que les autres catégories de la population. Il y a malgré tout plus de 200 000 chômeurs en plus depuis le début de la crise. Si on prend cette fois tous les demandeurs d'emploi et donc maintenant ceux qui ont eu aussi une activité très réduite ces derniers mois, la baisse sur le deuxième trimestre est moins forte, mais elle permet de passer sous un seuil symbolique, notamment sous le seuil des 6 millions de chômeurs. Il y a aujourd'hui très exactement 5 984 000 chômeurs en France. Généralement, on considère que cette mesure est plus représentative de la tendance. Ce qui est sûr, c'est que la vague de faillite et l'explosion du nombre de demandeurs d'emploi à redouter au début de la crise ne se sont pas produites grâce au gigantesque plan d'aide. Reste à savoir ce que donnera la reprise avec les nouvelles mesures mises en place en raison de l'envolée du variant Delta.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Et malgré cette reprise qui se dessine, il y a des secteurs qui restent très impactés par la crise et qui peinent à se remettre, notamment celui du loisir.
Il est dorénavant nécessaire de présenter un pass sanitaire, ce qui complique bien sûr les visites. C'est ce que m'a expliqué Arnaud Bennett, président du syndicat national des espaces de loisirs et d'attractions.
Les tendances aujourd'hui sont entre moins 15 et moins 50% suivant les sites. Évidemment, ce pass sanitaire, nous ne sommes pas forcément opposés. Nous sommes bien évidemment pour la vaccination. Mmh. Ce que nous contestons simplement, c'est cette mise en place précipitée au 21 juillet, dans des sites qui sont par ailleurs souvent des sites d'extérieur, totalement sécurisés avec des protocoles qui ont démontré leur efficacité en 2020. Voilà, et avec des produits qui se consomment de manière impulsive, c'est-à-dire que les gens prennent la décision le matin ou la veille pour venir. Ceux qui viennent sont ravis de passer une bonne journée. Par contre, beaucoup ne viennent pas et beaucoup de sites sont dans une détresse et une situation économique très compliquée.
Et vous vous faites insulter parfois par le public également, hein ?
Alors, on se fait effectivement insulter. On reçoit des messages très fleuris, nous disant qu'on est des collabos, que le pass sanitaire, c'est un scandale, que la vaccination, c'est un scandale. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Nous sommes pour la vaccination. Donc, nous sommes totalement délaissés et vraiment désespérés.
Arnaud Bennett, président du syndicat national des espaces de loisirs et d'attractions, invité du journal de la mi-journée sur Europe 1. On l'appelle Nizzabella et elle porte très bien son nom à la ville de Nice sur la Côte d'Azur, célèbre entre autres pour sa promenade des Anglais, intègre la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle a été reconnue au titre de ville de villégiature d'hiver de la rivière à Thierry.
Et on en parle avec Muriel Mayette-Holtz. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice du Théâtre National de Nice. Ça faisait 10 ans que Nice était candidate. Ça y est, ça aboutit enfin. C'est une belle nouvelle, une bonne nouvelle pour vous ce soir.
Oh, c'est magnifique. Et puis c'est une juste récompense parce que le maire de Nice, Christian Estrosi, accompagné par Jean-Jacques Ayagon, ont travaillé merveilleusement pour que ce soit une réalité. C'est une ville d'une grande beauté. Qu'a réussi le mélange de son histoire et en même temps c'est une ville qui sait se réinventer. On est dans la couleur, dans la terre de Sienne, les ocres jaunes dans la vieille ville et on est dans une ville qui bouge et qui est très contemporaine aujourd'hui, très moderne. Et ça, c'est merveilleux.
Muriel Mayetholz, ça veut dire aussi, bien sûr, à terme, des retombées touristiques, économiques. C'est 30%, dit-on, de fréquentation touristique en plus, généralement.
Mais j'espère, en tout cas, ce serait légitime parce que c'est une ville qui est coincée entre la montagne et la mer. Et là, je vous parle à une terrasse pour essayer de donner envie à tous vos auditeurs de me rejoindre.
mais on a envie de vous rejoindre, déjà.
c'est aussi... Non, vraiment, c'est merveilleux. Puis c'est une ville qui réussit sa transition écologique. Le maire a un grand projet pour allonger le poumon vert au centre de la ville, la promenade du Paillon. C'est vraiment une ville où il fait bon vivre.
C'est aussi des retombées pour vous, pour la culture, pour votre théâtre ?
Alors oui, de toute façon, mais en plus le maire a des projets assez généreux pour le théâtre puisqu'on va ouvrir la saison prochaine un théâtre dans une église du XIIIe siècle. On a des projets, il a mis son nouveau mandat sous l'égide de la culture, donc c'est une ville vraiment qui est en pleine expansion et qui a beaucoup d'émotions encore à partager.
Nice, désormais donc intégrée à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec nous, Muriel Mayetholz, la directrice du Théâtre National de Nice. Grand merci à vous, madame.
Bonne journée, bonne soirée à tous vos auditeurs.
Merci à vous.
Au revoir.
Vous savez qu'il y a 12 coups de canon qui ont été tirés depuis la colline du château pour fêter l'événement. Alors que ce soit à Nice ou ailleurs, peut-être possédez-vous une résidence secondaire. Gare aux mauvaises surprises, plusieurs villes ont décidé de tripler la taxe d'habitation concernant ces lieux de villégiature. Une hausse autorisée par la loi. Si le marché de l'immobilier y est tendu, les propriétaires concernés vont pouvoir s'attendre à payer par endroit jusqu'à 60% de plus, Maud Descamps.
Tout à fait, hein, c'est le cas à Lyon et à Bordeaux où la municipalité vient de voter une augmentation de la taxe d'habitation des résidences secondaires, des villes où il existe un manque de logements. L'objectif est donc de convaincre les propriétaires de remettre leurs biens sur le marché. Audrey Hénoc est adjointe au maire à la mairie de Lyon.
Le premier objectif, c'est vraiment qu'un certain nombre de résidences secondaires, donc on en a environ 15 000, puissent repasser en résidence principale. Parce que pour nous, un logement, c'est avant tout le lieu où habite une famille ou une personne à temps plein.
Grâce à cette hausse, la municipalité devrait empocher 3 300 000 euros de plus par an. Et puis, il y a aussi de plus petites communes comme Saint-Julien-de-Chédon dans le Loir-et-Cher, 750 habitants, qui a augmenté cette taxe. Le maire Michel Leplard espère libérer des logements et faire venir des familles essentielles à la vie du village.
Et ça nous permet d'essayer de sauvegarder notre école. C'est pour ça qu'on a voulu aussi ramener cette équité un peu fiscale en disant, voilà, ben cet effort, tout le monde va le faire pour que la commune puisse continuer à bien vivre, quoi.
Sachez aussi que certains maires se mobilisent pour qu'une nouvelle taxe soit également appliquée aux logements vacants.
Maud Descamps.
Dans l'actualité internationale, cette explosion en Allemagne sur un site chimique à Leverkusen, au moins une personne est décédée, 4 autres sont portées disparues, 16 salariés du site sont blessés.
Aux États-Unis, le début de la commission d'enquête parlementaire sur l'attaque du Capitole le 6 janvier dernier, à l'ouverture des travaux, son président, le démocrate Benny Thompson, a affirmé que l'assaut des partisans de Donald Trump visait à faire dérailler la démocratie.
Allez, de la musique pour terminer avec un retour, et quel retour, celui de Stromae sur la scène musicale.
Et 8 ans après la sortie de son album au succès planétaire Racine Carrée, l'artiste très discret depuis devrait revenir avec un nouvel album dans quelques mois. Angèle Châtelier.
Stromae, roi des tubes, avait vendu 3 millions d'exemplaires de son dernier album Racine Carrée, sorti en 2013.
J'étais formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Pendant 2 ans, ensuite, il avait enchaîné les dates de concert partout dans le monde. Plus de 200 dans un rythme effréné. Tellement qu'à cause du surmenage et suite à une grave réaction à un traitement contre le paludisme, Stromae avait tout quitté, souhaitant faire une pause d'au moins 2 à 4 ans, disait-il à l'époque. 6 ans après, Stromae semble être prêt à faire son comeback et devrait revenir dans quelques mois avec un 3e album, le sien. Lui, qui malgré tout ces dernières années, a tout de même collaboré avec d'autres artistes comme Big Flo et Oli ou Aurel San, avec qui l'a partagé en duo. Ce retour tant attendu de Stromae donne aussi des ailes aux maisons de disques. Selon Le Parisien, les deux plus grandes, Universal et Sony, sont dans la course. Une prime d'1 million d'euros serait dans la balance des négociations.
Alors on danse.
Voilà, Stromae donc qui va revenir sur la scène musicale.
Et ça, c'est un chouette retour. Merci à vous, Sophie Tusson. On vous retrouve bien sûr à 18h30 pour l'essentiel de l'info. La météo à présent avec vous, Marlène Duré. Alors demain, quelques averses, où ça précisément?
Alors dans le sud-ouest pour commencer, parce qu'on va avoir des averses orageuses en provenance d'Espagne qui vont gagner le Midi-Pyrénées cette nuit. Et comme il y aura encore beaucoup d'humidité dans l'air au petit matin, et ben ça aura pour conséquence de laisser un ciel très nuageux à couvert dans cette région. Mais aussi sur une bonne partie de l'Aquitaine d'ailleurs. Le soleil percera plus ou moins en journée. Quant aux averses orageuses, à proprement dites, on les retrouvera demain matin du Languedoc aux Alpes et au Jura. Ça nous fait un petit quart sud-est. Et elles se maintiendront l'après-midi simplement au niveau des Alpes. Ça veut dire que sur le reste de la zone, le soleil sera de retour. D'autres averses à prévoir dans le nord du pays, elles semblent moins fréquentes comparées à celles d'aujourd'hui. Ça va concerner l'après-midi, une zone allant des régions du nord-ouest à la frontière belge en passant par l'Île-de-France. Et partout ailleurs, c'est pas si mal, une alternance de nuages et de soleil. Les températures un peu basse pour la saison, avec un minimum de 19 degrés à Cherbourg. Il fera 20 à 25 en général, avec 24 à Paris, 26 à 29 sur la façade est, et puis 27 à 33 quand on se rapproche de la Méditerranée. 33 degrés dans la ville où le peintre Paul Cézanne a passé sa vie, c'est-à-dire Aix-en-Provence.
Parfait, merci. À tout à l'heure, Marlène.
Europe 1, Thierry Dagiral.